Donc, notre conférencier aujourd'hui, Jean-Baptiste Berne. Jean-Baptiste est ingénieur de formation, il est diplômé de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, il est docteur en sciences. Il a fait une carrière de cadre dirigeant d'une société d'ingénierie française. Et puis avec la retraite, eh bien, il peut enfin s'adonner à sa passion pour l'histoire, mais aussi faire profiter les sociétés savantes de ses compétences, puisqu'il a été vice-président de la Société des Amis du Vieux-Chambéry et qu'il est actuellement, j'allais dire, le tout-puissant secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie. C'est le seul qui soit permanent, il est perpétuel. Tous les autres, nous sommes élus donc sur un siège végétal, mais pas notre secrétaire. Il occupe aussi d'ailleurs une fonction qui cumule aussi avec celle de trésorier de l'Académie. Et puis il est aussi archiviste adjoint du diocèse de Chambéry. Alors aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, les ordres dynastiques de Savoie. Il le connaît d'autant plus que Jean-Baptiste est chevalier de l'ordre de Saint-Maurice et Lazare et que plusieurs de ses ancêtres furent aussi membres de cet ordre. Jean-Baptiste.
Merci.
Monsieur le Président, chers consoeurs de Nice, chers confrères, chers amis, je suis extrêmement honoré aujourd'hui de faire une communication à la CHAM, d'autant plus qu'il y a quelques mois, en fouillant ma généalogie, je me suis aperçu que je descendais d'une famille aussi d'une famille Salomon de Saint-Jean de Maurienne. Voilà. Ce qui, entre parenthèses, me donne une double parenté à mon épouse, Autruchet, et par aussi des Dénariers de Chambéry. Voilà, donc au niveau de la bibliographie pour laquelle je me suis servi dans ma conférence, je vous ai mis la liste des ouvrages sur lesquels je me suis appuyé. Les plus importants, je les ai mis en gras. Alors, je m'excuse, mais j'ai oublié mon petit pointeur, donc je ne pourrais pas vous pointer les différents points. Donc, les plus importants, c'est l'armorial, évidemment, de Foras. La liste des chevaliers du collier et d'annonciade, toujours de Foras. Ça marche ? Impeccable. Je me suis servi également de la maison de Cécel, de Marc de Cécel-Crécieux. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard. Il y a également alors, un ouvrage fondamental, Les origines de l'ordre du collier de Murator. Et puis également une brochure sur l'ordre des Saint-Maurice et Lazare que j'ai réalisée. J'en ai quelques exemplaires. Si ça intéresse des personnes dans l'Assemblée, vous pourrez les prendre. Alors voici la liste des ordres dynastiques de la maison de Savoie. Je ne parlerai en détail que des deux premiers, les plus importants, l'ordre du collier, qui devint ensuite celui de la très sainte Annonciade, et l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. Alors quelques mots cependant des autres ordres. L'ordre de la couronne d'Italie est fondé en 1868 par Victor Emmanuel II pour commémorer l'unité italienne. Ordre royal, il s'éteint en 1983 à la mort d'Humbert II, le dernier roi d'Italie, qui n'a jamais abdiqué. Ensuite, l'ordre militaire de Savoie est institué en 1815 par Victor Emmanuel Ier. Il n'est plus décerné après la chute de la monarchie en 1946. Le suivant, l'ordre civil de Savoie, est fondé en 1831 par Charles Albert. La querelle entre le prince Victor Emmanuel et son cousin Amédée de Savoie-Ost a fait que cet ordre n'est plus décerné. Enfin, le dernier, l'ordre du mérite de Savoie, est créé par le prince Victor Emmanuel en 1988 pour pallier à la disparition de l'ordre civil. Il récompense ceux ou celles que la Maison de Savoie veut honorer. Il est très actif à ce jour. Ses chevaliers portent un manteau d'église bleu. Alors je vais maintenant vous présenter les deux premiers ordres. D'après Muratore, l'ordre du collier est créé en 1364 par Amédée VI, le comte Vert, à l'occasion de la croisade contre les Turcs organisée pour porter secours à l'empereur byzantin Jean V, paléologue, qui était son cousin germain et qui était prisonnier du roi bulgare. Alors la cérémonie de l'ordre se déroule en Avignon en présence du pape Urbain V qui approuve les statuts. Parmi les seigneurs répondant à la croisade, Amédée VI en choisit 14 et leur met autour du cou un collier qui unit ses nouveaux chevaliers jusqu'à la mort. Il est formé d'une lame plate en argent doré fermée par une boucle où est suspendu un anneau formé de trois nœuds ou l'un d'amour. Alors le l'un d'amour, hein, qui est un des emblèmes très importants de la Maison de Savoie, s'écrit L-A-C-S, du latin nacueus, cordon. C'est un cordon noué en forme de huître renversée qui symbolise l'amitié jurée et indéfectible. Quand on tire sur ses extrémités, le lacet se resserre comme une amitié indissoluble quand on tente de la diviser. Dans les trois lacets d'amour au bas du collier qui forment un anneau, on voit le symbole de l'éternité. 15 colliers sont confectionnés à Avignon pour le comte lui-même et ses 14 fidèles. La dépense liée à la confection de ces colliers apparaît dans les livres de l'hôtel du comte conservés à Turin. Parmi les 14 premiers chevaliers, j'en ai retenu deux dont je vais vous dire un mot. Là, il n'y a pas la liste des 14, hein, il en manque deux. Alors, je vais commencer par celui-là, vous avez son blason, c'est Étienne Bâtard de la Baume. Donc Étienne Bâtard d'Étienne de la Baume, donc c'est Bâtard d'Étienne de la Baume, mérite d'être cité. Guichemont dit de lui, je le cite, « Il répara le défaut de sa naissance par de grandes vertus. Maréchal de Savoie, il bat les troupes du Dauphin aux Abrets, facilitant la conclusion du traité de Paris » de 1355. En 1366, il est amiral dans la croisade contre les Turcs. Il participe à la prise de Gallipoli et à la libération de Jean V, paléologue, empereur de Byzance, prisonnier du roi bulgare. Au retour, il va battre les Visconti à Milan pour assurer à la maison de Savoie les possessions de la maison d'Anjou en Piémont. À la mort d'Amédée VI, il devient conseiller de Bonne de Bourbon. Vous voyez ici le portrait de Thénard de Menton qui est situé au château de Menton. La liste des chevaliers, des premiers chevaliers donnés par Cabaret, qui a repris des traditions orales. Il y apparaît dans sa liste un chevard ou un chenard de Montoux qui deviendra chez d'autres Thénard de Menton. Or, le prénom de Thénard ne se trouve chez aucun Menton à l'époque. Muratore et Amédée de Foras ont conclu qu'il s'agit bien d'un Montoux et non d'un Menton, d'autant plus qu'un François dit Chivard de Montoux a bien existé. Quant au portrait conservé au château de Menton, Foras estime qu'il ne s'agit en aucun cas d'une preuve. C'est donc un faux portrait. C'est une commande des Menton au XVIIe siècle qui voulait aussi exalter leur puissance. Notons que ce thénard porte bien le collier et que le blason est lui aussi entouré d'un collier. Donc vous voyez ici le collier avec l'élan d'amour, et puis vous voyez aussi blason des Menton avec le collier le collier lui-même, sachant que curieusement, donc ce portrait ne correspond à personne. Le siège de l'ordre est établi à la chartreuse de Pierre Châtel, et les premiers chapitres s'y tiennent. Les 15 chartreux qui l'occupent doivent prier pour les souverains et les chevaliers de l'ordre, et c'est là que ces derniers sont enterrés. Agnès Page cite un texte où des colliers sont offerts à Pierre Châtel par, alors je cite, « Mon dit Seigneur, le jour du sommeillement du Seigneur de Grolie. » Il reste peu de traces à Pierre Châtel de l'ordre du collier. Entre parenthèses, il est quasiment impossible aujourd'hui, malheureusement, de visiter Pierre Châtel. Il reste quelques fresques à peine visibles, donc vous les voyez sur la gauche, et la clé de voûte de l'église qui comporte le blason de la Savoie, entouré d'un collier, où l'on voit les lards d'amour et la devise « Ferte ». Oui, c'est « Ferte ». On peine à imaginer, dans la cour d'honneur de Pierre Châtel, le prince et sa maison en habit de cour, entourés du clergé et des moines, entrant en procession dans l'église pour remettre leur collier aux chevaliers. Mais Charles-Emmanuel Ier, le fils d'Emmanuel Philibert, rêvait d'agrandir ses états. Abandonnant la sage politique de son père, il lance plusieurs projets à la fois, sans en réussir aucun. Après 2 ans de négociations avec Henri IV, qui voulait récupérer le marquisat de Saluces, ce dernier enlève Montmeillan et toutes les places fortes de Savoie. Charles-Emmanuel est obligé de signer un traité en 1601. Alors je vais citer mon arrière-grand-père, l'historien André Perrin. En échange du marquisat de Saluces, il abandonnait à la France la Bresse, le Bugey, le Val-Romais, le Pays de Gex, fertile contrée qui, depuis plusieurs siècles, formait le plus beau fleuron des États de Savoie et les deux rives du Rhône. Par le fait de cet échange, la maison de Savoie devint de plus en plus italienne, la Savoie fut abandonnée et ne présenta plus pour ses princes d'intérêt que comme le berceau de leur dynastie et comme première défense des passages des Alpes. Pierre Châtel se retrouve donc en France, et le siège de l'ordre se fixe à Turin. Le premier collier est très simple. Il est grand et massif, et se porte sur la cuirasse et la côte de maille. Voici le dessin du grand collier du comte Vert, tel que Guichenon l'a vu dans le trésor d'Hautecombe avant sa disparition dans les pillages de la Révolution française. Il est, dit-il, je cite Guichenon, d'or large, de 3 doigts, avec ses lettres fertes, un la d'amour au bout de chaque ferte, et le pendant de 3 la d'amour en rond. Dès sa fondation, l'ordre est dédié à la Vierge Marie. On voit apparaître des roses sur le collier, reine des fleurs et fleurs de la Vierge. C'est probablement Charles Ier, vers la fin du XVe siècle, qui introduit dans l'insigne de l'ordre les premiers des mystères joyeux de la Vierge, l'Annonciation. Alors voici, on a ici 2 objets d'exception. Le collier et la plaque d'armure du duc Emmanuel Philibert, qui font partie des collections du prince Victor Emmanuel, actuel chef de la maison de Savoie. l'ordre du collier est réformé en 1518 par Charles II le Bon, appelé aussi Charles III. Il le dote d'un nouveau nom, celui de l'Annonciade. C'est un acte de piété qui attache à la maison de Savoie une dévotion mariale. En vouant son ordre à la Mère de Dieu, et donc au Christ lui-même, il était difficile de trouver un plus haut patronage. Aux 15 chevaliers dont le nombre est passé à 20, en l'honneur des 5 plaies du Christ, Charles II rajoute des surnuméraires, ils ne forment qu'une classe. Il instaure ensuite une réunion périodique de 4 jours qu'il situe autour de la fête de l'Annonciation et pendant lesquelles les chevaliers se réunissent en chapitre. La première fête se déroule au château de Chambéry et dans sa sainte chapelle du 24 au 27 mars 1519. Elle suit un protocole rigoureux inspiré de celui de la toison d'or du duché de Bourgogne. La fête est somptueuse et se déroule dans un étalage de luxe destiné à rehausser le prestige de la maison de Savoie et à réaffirmer la puissance du duc aussi bien sur ses sujets qu'à l'extérieur du pays. Alors je saute quelques siècles. Tous les princes de la maison de Savoie sont représentés avec l'ordre du collier, puis de l'Annonciade. Alors à gauche, vous avez le portrait donc du roi Charles-Félix en habit de cour qui se situe à l'Académie de Savoie. Il porte un magnifique collier. On distingue les lins d'amour, on les voit mal, mais ils sont sous les fertes. Vous avez des rubis qui représentent les roses de la Vierge. Et vous avez dans le médaillon l'annonce faite à Marie. À ses côtés, à droite, on voit Ferdinand de Savoie, duc de Gênes, deuxième fils du roi Charles-Albert. Il porte le petit insigne de l'Annonciade avec plaque. Le peintre piémontais Jean Marini a porté toute son attention aux insignes tout en passant assez rapidement sur certaines parties du tableau. Alors le collier est aussi omniprésent dans les églises, monuments et châteaux. Alors j'ai pris un exemple, c'est l'église Notre-Dame de Chambéry. L'église est inaugurée en 1635 et la façade achevée 10 ans après grâce aux donations de la régente Christine de France. Sur le fronton du porche, le blason de la Savoie est entouré du collier de l'Annonciade, vous voyez là, avec les lins d'amour, les fertes qu'on a du mal à distinguer, mais là on distingue très bien un R, là vous avez un T, et puis l'annonce faite à Marie dans le bas du collier. Sur le vitrail central du chœur, toujours de l'église Notre-Dame, le collier de l'Annonciade, vous avez le collier de l'Annonciade avec la devise Ferte et 5 roses correspondant aux 5 mystères joyeux de la Vierge. Vous en avez 2 blanches et 3 rouges. À gauche, une rose et à droite, une fleur de lys en souvenir de Christine de France. Alors je vais maintenant présenter quelques chevaliers de l'ordre en lien avec la Maurienne. Alors j'ai cherché, en dehors de la maison de Seyssel, je n'ai pas trouvé, mais peut-être qu'il y en a, d'autres chevaliers mauriennais qui ont eu l'ordre de l'Annonciade. Donc il s'agit essentiellement des Seyssel, dont la maison, comme vous le savez, a servi pendant de nombreux siècles la maison de Savoie. Les Seyssel possédaient de grands biens dans l'avant-pays savoyard, en Savoie propre, Aix, La Serra, La Bâtie, et en Maurienne, grâce à Aymon de Seyssel, qui hérite de son oncle Gaspard de la Chambre en 1454, et qui crée la branche des Seyssel, marquis de la Chambre et vicomte de Moret. Alors vous avez donc à gauche le blason des Seyssel, à droite le blason des Seyssel de la Chambre. Alors les tableaux des Seyssel que je vais présenter sont au château de Musin. J'ai pu les prendre en photo grâce à l'amabilité d'Olivier de Seyssel, qui est le comte actuel de Seyssel Crécieux. Alors sous Charles-Emmanuel Ier, Jean de Seyssel, on ne connaît pas sa naissance, qui est mort en 1582, était marquis de la Chambre, vicomte de Maurienne. Il est cité par le duc comme son cher cousin. Il faut savoir que parmi les chevaliers de la, tous les chevaliers de la Nantiade étaient considérés par le duc, ou plus tard par les rois, comme leur cher cousin. Il est conseiller et grand chambellan. Jean se rend en procès avec René, comte de Nassau, pour la principauté d'Orange, dont il prendra possession temporairement de 1555 à 1559. Toujours sous Charles-Emmanuel Ier, Charles-Emmanuel de la Chambre Seyssel, donc décédé en 1604, est marquis d'Aix et chambellan, conseiller d'État du duc de Savoie et capitaine de 50 lances. Toujours dans les Seyssel, Bertrand de Seyssel, Pierre de Seyssel, marquis de la Chambre, vicomte de Maurienne, et conseiller d'État, chambellan, colonel d'infanterie et chevalier de l'Annonciade en 1598. Il défend la Savoie contre Lesdiguières, puis se bat sans succès contre les troupes d'Henri IV. À gauche, Bertrand de Seyssel, seigneur de Lacérat et du Châtelard, n'est pas Maurienais, mais il s'est battu en Maurienne. Il prend part à toutes les guerres du règne de Charles-Emmanuel Ier. Il est commandant de l'infanterie et cornette blanche de la noblesse de Savoie, c'est-à-dire représentant de la noblesse auprès du prince. Ce titre lui donne la préséance sur toute la noblesse de Savoie. Il tient un rôle majeur dans la défaite de l'armée française en 1597 à La Chambre et Épierre, qui permet au duc de reprendre la Maurienne. En récompense de ses services, il reçoit le collier de l'Annonciade en 1618, soit un an avant sa mort. Et puis à droite, donc, Louis de la Chambre Seyssel, marquis de la Chambre et d'Aix, succède à son frère Charles-Emmanuel, que l'on a vu précédemment. Il est vicomte de Maurienne et maréchal de camp général. C'est sous Victor-Emmanuel Ier que l'ordre de l'Annonciade commence à servir la politique étrangère du royaume. On y nomme des grands-ducs de Russie, le prince de Metternich, le duc de Wellington, vainqueur de Waterloo. Cette tendance s'affirme sous les règnes suivants. On y trouve les têtes couronnées d'Europe et leur entourage, des cardinaux, un empereur du Brésil, les princes Napoléon. En 1861, Sa Majesté Abdulaziz Khan, empereur de Turquie, est le premier musulman à arborer l'annonce faite à Marie. C'est assez curieux. L'empereur du Japon apparaît en 1879. Avec Falière, les présidents de la République française arrivent en 1909. Sous Victor Emmanuel III, on voit apparaître en 1924 Benito Mussolini, président du Conseil des ministres. Puis le cardinal Pacelli, futur Pie XII, von Ribbentrop en 1939, le maréchal Göring et le maréchal Franco en 1940. Hitler n'y est pas, vous. On peut estimer que l'ordre a été détourné de son objet initial quand il a été décerné à des personnalités étrangères. Alors la liste complète que j'avais s'arrête en 1983. On sait que des nominations ont eu lieu depuis dans la discrétion. Une nouvelle liste de 20 chevaliers a été publiée officiellement par les ordres dynastiques en 2020. Même si la famille de Savoie, des proches, des princes et quelques têtes couronnées le portent, l'ordre de l'Annonciade n'apparaît pas dans les cérémonies des ordres dynastiques et en particulier dans le chapitre annuel. Alors nous allons maintenant introduire l'ordre de Saint-Lazare, puis celui de Saint-Maurice, avant d'aborder le Réunion. Alors la fondation de l'ordre de Saint-Lazare date du début du XIIe siècle en Palestine. Son but est de soigner les lépreux et de combattre les mécréants. Probablement créé sous le patronage du Lazare, ressuscité de l'Évangile selon saint Jean, reconnu par les rois de Jérusalem, l'ordre en reçut de nombreuses dotations. Il reçoit également des bienfaits de Henri II, Richard Cœur de Lion, Saint-Louis. Il s'étend aussi en Europe et y fonde léproserie et hospice. Il est dirigé par un grand maître dont les premiers semblent avoir été lépreux. Alors là, vous avez le sceau de la léproserie de Saint-Jean et puis ici un croquis. Et vous voyez très bien ici un lépreux avec sa crécelle. Et là, Saint-Lazare. À la fin du XIIe siècle, Guy de Lusignan devient roi de Jérusalem. Vaniteux et incompétent, il rompt le fragile équilibre établi avec les musulmans. Au soir du 3 juillet 1187, Guy de Lusignan et son armée, affaiblis par la soif et la chaleur, se heurtent à celle de Saladin sur une élévation appelée les Cornes de l'Artin. La bataille est terrible et les morts nombreux des deux côtés. Mais inférieurs en nombre et épuisés, les croisés restants cessent le combat. Alors que le roi et ses grands barons se rendent, Saladin fait décapiter autant de chevaliers des ordres religieux qui lui en tombent dans les mains. Il s'empare de Jérusalem, mais respecte les populations chrétiennes des villes qu'il occupe. Après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, c'est la fin de l'implantation des ordres chevaleresques en Terre Sainte. L'ordre se replie dans les États italiens, en France et en Espagne. En 1318, le pape Jean XXII fait dépendre l'ordre directement du Saint-Siège. Cette impunité et un comportement parfois répréhensible de l'ordre, il y a des exemples absolument terrifiants, suscite de fortes tensions avec le clergé et les élites locales. Pie IV tente de réformer l'ordre en transférant la grande maîtrise à son neveu, Jeannot de Châtillon. Mais en 1571, confronté aux plaintes qui remontent journellement au souverain pontife, le grand maître Jeannot de Châtillon renonce en faveur du duc Emmanuel Philibert. Alors j'en arrive maintenant à l'ordre de Saint-Maurice. Sous l'empereur Maximien, vers 286, on se souvient du martyr de la Légion Thébaine, d'origine égyptienne, et de son chef Saint-Maurice, qui refusèrent de massacrer les chrétiens. La maison de Savoie voue à ses martyrs une dévotion particulière et l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune fut créée dans le Valais en 515 pour en célébrer le culte. Depuis la fin du XIe siècle, probablement, les princes de Savoie reçoivent l'investiture par la remise de l'anneau du martyr. La croix tréflée de l'antique abbaye reprenait la croix copte d'Égypte. Elle se trouve comme un symbole protecteur sur les monnaies et les bannières de Savoie. Vous voyez la croix de Saint-Maurice sur une monnaie de Savoie. En 1410, Amédée VIII, le duc Amédée VIII, fonde un couvent à Ripaille et le place sous l'invocation de Notre-Dame et de Saint-Maurice. Créé duc 6 ans plus tard, il construit un château près du couvent dans le but d'y finir ses jours. Il s'y installe en 1434 et délègue à son fils Louis les affaires courantes du duché. Il s'entoure des 5 conseillers les plus fidèles qui deviennent les premiers chevaliers de Saint-Maurice. Ils sont veufs comme le duc et avancés en âge. Les chevaliers sont drapés de gris, leur seul luxe est la croix tréflée en or de Saint-Maurice qu'ils portent sur la poitrine. On a la croix ici, et la croix, voilà le duc et la croix d'un chevalier. Mais le pape Eugène IV est très contesté dans l'Église. Après une longue lutte avec de nombreux cardinaux, le concile de Bâle le dépose en 1439 et vient chercher Amédée VIII à Ripaille pour le remplacer. Secrètement flatté, Amédée accepte et abandonne à regret l'habit de chevalier de Saint-Maurice et son nom pour prendre celui de Félix V. Il abdiquera plus tard en constatant son impossibilité de réformer l'Église et également déçu du comportement de certains cardinaux qu'il avait élus. Après une négociation bien menée, il est nommé cardinal de Sainte-Sabine et légat du Saint-Siège. Il a le deuxième rang dans l'Église et obtient la souveraineté spirituelle en plus de la souveraineté temporelle dans ses États. Après le départ d'Amédée VIII, son fils le duc Louis et son épouse Anne de Chypre ne perpétuent pas l'existence de l'ordre de Saint-Maurice qui disparaît. Alors j'en viens maintenant à l'ordre réuni des Saint-Maurice et Lazare. Près d'un siècle après, le duc de Savoie Emmanuel Philibert est auréolé de ses victoires à la tête des armées du Saint-Empire romain germanique, et notamment par la victoire de Saint-Quentin de 1557, remportée contre Henri II de France, son futur beau-frère. En 1559, le traité de Cateau-Cambrésis lui permet de retrouver ses états et il épouse la sœur d'Henri II, Marguerite de France. En 1572, Emmanuel Philibert obtient du pape Grégoire XIII l'institution d'un ordre militaire et religieux sous le titre de Saint-Maurice, puis l'union de l'ordre de Saint-Maurice avec celui de Saint-Lazare est accordée dans une autre bulle du 13 novembre 1572. Alors vous avez là un document assez remarquable. Il s'agit, alors ce que vous voyez, c'est la première page du recueil des bulles et brefs de création de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. Ce document de 1604 est dans la grande bibliothèque du diocèse de Chambéry. On peut noter que le blason est entouré du collier de l'annonciade et que l'on voit les extrémités des croix de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. Donc voilà l'annonciade. Là, vous avez l'extrémité de la croix de Saint-Maurice et ici, les extrémités de la croix de Saint-Lazare. la dernière bulle du pape place le siège du nouvel ordre dans le duché de Savoie et en délègue la grande maîtrise au duc et à ses successeurs. Il a la faculté d'y admettre des sujets choisis dans le monde entier. Les chevaliers s'engagent à n'épouser qu'une vierge. Ils font le vœu de chasteté conjugale et se soumettent à une profession de foi. J'ai essayé de regarder ce que voulait dire la chasteté conjugale. J'ai lu ce qu'en disait un jésuite, j'ai rien compris. L'ordre de Saint-Nazaire, par son ancienneté et sa renommée, apporte sa notoriété à l'ordre de Saint-Maurice. Grégoire XIII autorise Emmanuel Philibert à prendre possession de tout ce qui appartenait à l'ordre de Saint-Nazaire, à l'exception des biens situés en Espagne. Néanmoins, Emmanuel Philibert ne prendra pas les biens français suite à l'opposition de Charles IX et d'Henri III. L'ordre des Saint-Maurice et Nazaire est hospitalier et militaire. Il a la double obligation de soigner les lépreux et de défendre le Saint-Siège. Il entretient deux galères destinées à combattre les Turcs et qui ont été déjà engagées dans la bataille de Lépant en 1571. Alors voici deux réformateurs de l'ordre. En 1729, sous Victor Amédée II, l'ordre est réparti en 9 provinces, dont Piémont, Ostes, Savoie, Gênes, Nice, Sardaigne, où l'ordre a trouvé refuge pendant l'occupation française de 1796. Plus tard, Charles Albert, prince d'une grande piété, réforme les statuts. Il abolit les distinctions réservées à la noblesse et crée 5 classes qui sont toujours en vigueur à ce jour. Chevalier, officier, commandeur, grand officier et chevalier grand croix. Il fait aussi refaire un anneau de Saint-Maurice, l'original ayant été volé pendant l'occupation du Piémont par les troupes françaises de Napoléon Ier. Après la formation du Royaume d'Italie en 1861, c'est au premier roi d'Italie, Victor Emmanuel II, et à ses successeurs qu'est dévolue la grande maîtrise de l'ordre. L'ordre a été largement décerné aux personnes s'étant illustrées auprès de la maison de Savoie, que ce soit des militaires, des magistrats ou des grands serviteurs de l'État. Alors, j'ai pris deux exemples pour illustrer mon propos. À gauche, vous avez Claude Ferdinand de Menton-Lornay, comte des Ollières, qui descend effectivement de la maison de Menton, qui s'illustra dans les combats contre les Espagnols en 1742-43. Il fut gouverneur du duché de Savoie en 1760 et chevalier grand-croix de l'ordre. Alors, comme on peut le voir, dans tous les portraits en général, la décoration de l'ordre des Saint-Maurice et Nazaire est très très visible. Ici aussi. Et à droite, donc, vous avez un magistrat, Charles Dupaquier, sénateur en 1848, gouverneur régent de la province de Savoie en 1860, puis premier président de la cour d'appel de Chambéry, et qui était grand officier des Saint-Maurice et Nazaire. L'ordre a survécu malgré les bouleversements que l'Italie a connus à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Après le référendum de 1946, au résultat très contestable, où les Italiens se prononcent pour la République, un vers deux quitte le trône sans abdiquer et se retire au Portugal. Il s'ensuit une grande confusion. Alors qu'Humbert II en est toujours le grand maître, la République italienne continue de décerner l'ordre jusqu'en 1951, date où elle le remplace par l'ordre du mérite italien, tout en le reconnaissant d'utilité publique. un maire II le décerne peu dans les années 50 et le nombre des chevaliers se réduit à quelques dizaines. À sa mort en 1983, son fils Victor Emmanuel devient le grand maître de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. C'est lui qui va le relancer avec l'appui de son fils, le prince Emmanuel Philibert, pour en faire une organisation caritative de grande ampleur, représentée dans le monde entier et comprenant plusieurs milliers de membres. L'ordre poursuit donc ses activités sous la direction de la Maison de Savoie et en lien avec le Vatican, puisque la bulle de Grégoire XIII du 13 novembre 1572 est toujours en vigueur. Il a son siège en Suisse à Vézena, près de Genève. S'il n'a plus de vocation militaire, il a toujours pour mission la défense de la foi et la promotion d'activités caritatives et culturelle dans un cadre catholique et apolitique. Il a des délégations un peu partout dans le monde, aux États-Unis, même au Japon. L'intronisation des nouveaux chevaliers a lieu au cours du chapitre annuel des ordres dynastiques qui se tient à Genève ou à Rome depuis que les descendants des rois d'Italie ont la possibilité de retourner dans leur pays. À Rome, la cérémonie se déroule en terre vaticane, à l'université du Latran, qui bénéficie de l'extraterritorialité. Le lendemain de la remise des diplômes, une messe solennelle rassemble les ordres en manteau d'église. En 2018, elle a eu lieu dans la basilique du Latran, au lieu de la papauté. Alors voilà la vue générale de la basilique du Latran. Alors, on voit mal, vous avez tous les ordres en rouge, les dames en noir, et donc la grand-messe solennelle dans cette basilique absolument magnifique. Et puis toujours ce même jour, voilà la famille de Savoie, donc dans la basilique du Latran, je ne sais pas pourquoi, c'est... Les couleurs ne sortent plus. Donc on reconnaît la famille de Savoie. En plus, vous avez le grand chancelier des ordres, Johannes Niederholzer, et puis le prince de Windischgratz. Alors deux mots sur ce prince. Hugo de Windischgratz est membre du conseil des ordres dynastiques. Il est à noter qu'il faisait partie des gentilshommes de sa sainteté au Vatican, titre que le pape François vient évidemment d'abolir. Cela ne l'a pas empêché d'accueillir récemment le président Macron et son épouse lors de leur dernière audience papale, on l'a vu, dans un certain nombre de journaux. Alors j'en viens maintenant à la représentation des ordres dynastiques en Savoie et à l'association de Savoie des membres des ordres dynastiques de la Royal Maison de Savoie, ouf, appelé plus simplement ASMOD, A-S-M-O-D. Quelques familles de la noblesse de Savoie ont toujours été proches de la famille royale italienne. Alors je peux citer par exemple les Regnault de Lannoy de Bissy, dont nous avons un représentant ici, que je salue. Pendant la guerre de 14-18, François de Bissy, pour ses attaches avec la maison de Savoie, est détaché auprès de l'état-major du roi Victor Emmanuel III, le roi soldat, comme officier de liaison de l'état-major français. Son frère René est un intime du roi Humbert II et de la reine Marie-Josée, qu'il recevait dans son château de Bourgard à Bissy, et pour la reine plus tard à Cavalière, dans le Midi. Le délégué de l'époque était le colonel comte Mouxy de Loche, également d'une grande famille de Savoie. Alors j'ai ici une rare photo qui m'a été donnée donc, par Michel de Bissy. On retrouve Sa Majesté Humbert II et la reine. ici Adeline Cacan, qui était la femme de René de Bissy, et qui était conservatrice du Petit Palais à Paris. Le docteur Truchet, d'une famille maurienaise, et son épouse, donc les parents d'Anne. Il y a quelques figures qui me disent quelque chose, il faut que j'aille voir des amis pour savoir mettre des noms sur ces figures-là. Donc René de Bissy, tout à fait à droite, vous avez le comte-colonel Mouxidloche, appelé Totoche pour les intimes, et qui était le délégué de l'époque. Donc cette photo date de 1979. C'était à l'époque où l'ordre était, je dirais, en récession assez importante. Après le décès du colonel Deloche, c'est le prince qui appelle Jean de Seyssel en 1992 au poste de délégué. Il accepte en demandant à Bernard Fernex de Montgex de le seconder. Jean de Seyssel était un homme d'une suprême élégance, courtois, bienveillant, dont ceux qui l'ont connu se souviennent avec émotion. En 2005, Bernard Fernex le remplace comme délégué avec Pierre de Viry, vice-délégué, et Robert Michaud est secrétaire, assisté par Christian Dongier. Pour rassembler les membres des ordres dynastiques de Savoie et organiser de façon officielle des actions caritatives et culturelles, l'ASMOD est créé le 1er septembre 2005 sous le statut d'association loi de 1901. Le président est tout naturellement Bernard Fernex de Montgex, le secrétaire Robert Michaud, assisté de Christian Grandier, et le trésorier Bernard Demeaux. Alors sur cette photo donc, qui a été prise lors d'une réunion de l'ASMOD à Montretier, on reconnaît alors, le délégué Bernard Fernex de Montgex, ici Pierre de Viry, Christian ici présent dans cette salle, Robert Michaud qui va décéder je crois quelques mois plus tard, notre ami François Garras qui est également ici, Thierry Danière, Jean-Louis Darcel pour ceux qui les connaissent. La délégation de Savoie joue pleinement son rôle caritatif. Tous les ans, elle intervient en faveur des prêtres âgés d'Annecy et elle soutient depuis toujours la fondation du bocage de Chambéry. Elle poursuit ainsi l'œuvre de Camille Costa de Beauregard, en accueillant des jeunes en difficulté et en gérant un lycée agricole privé. En 2020 et 2021, pour aider les personnes âgées confinées, elle a financé partiellement une table numérique destinée aux pensionnaires de la maison Saint-Benoît de Chambéry et des aménagements à la maison de retraite Paul Idier de Verrier-du-Lac. Enfin, au niveau patrimonial, elle a restauré un portrait de Saint-François de Sales installé dans une chapelle de la cathédrale de Chambéry. Voilà. La délégation de Savoie participe à toutes les cérémonies importantes des ordres dynastiques. Au mois de mars, la commémoration de la mort d'Humbert II, dernier roi d'Italie, et de la reine Marie-Josée est célébrée à l'abbaye royale d'Hautecombe. La messe est célébrée par l'archevêque de Chambéry, membre de droit de l'ordre. Voici une partie de la délégation de Savoie en 2017. On distingue notamment notre consoeur, je ne sais pas pourquoi, c'est pas en rouge, notre consoeur Denise Michaud, là notre président qui est un petit peu caché, et Christian Monnier. Voici la photo de la famille royale entourée d'une partie des chevaliers de l'ordre en manteau d'église. Tous les 22 septembre, la fête de la Saint-Maurice est célébrée en abbaye de Saint-Maurice-d'Agaune dans le Valais. une messe solennelle est suivie d'une procession dans le village des trois châsses contenant les reliques des martyrs. Là, vous avez la très belle châsse des reliques de Saint-Maurice et les deux châsses qui contiennent les reliques de ses compagnons. L'ordre des Saint-Maurice et Lazare représente la maison de Savoie à cette cérémonie. Il est placé au premier rang dans l'église et juste derrière le père abbé dans la procession. Donc voilà le père abbé, l'ordre. Et on a quelques chevaliers du Saint-Sépulcre derrière. Depuis quelques années, la délégation de Savoie organise des événements caritatif pour recueillir des fonds. Un déjeuner de charité a eu lieu à Montagnol le 31 mai 2019. On était à peu près 140 personnes, présidées par le prince Victor Emmanuel. On voit le prince sur la photo avec le grand chancelier, la brigade de Savoie. Et donc le prince, la brigade de Savoie, quelques chevaliers de l'ordre, donc au moins deux Morianais. Un second déjeuner a eu lieu en juin de cette année à Gilles, chez le comte de Chevron-Villette. Mais la grande manifestation des ordres dynastiques est évidemment le chapitre annuel auquel se rendent de nombreux membres savoyards. Comme je l'ai dit, donc le chapitre est l'occasion de remettre leur diplôme aux chevaliers et dames nouvellement créés ou en promotion. Voici la remise de son diplôme à Anne Truchet en 2018 dans l'université du Latran. Ce n'est pas d'épouse que j'ai mis cette photo, mais bien parce que Anne descend de belle famille morianaise. Et cette année, on peut saluer la promotion de notre chapelain Thibaut Nicolet comme officier au SSML. Donc, le voici avec le prince Emmanuel Philibert, le grand chancelier. Quelques mots maintenant sur la maison de Savoie et la Maurienne, pour laquelle nos princes ont un fort attachement. En 1997, le prince Victor Emmanuel vient fêter le millénaire de la maison de Savoie. Il dédicace un drapeau de la Savoie et inaugure la salle des ordres dynastiques du musée de Saint-Jean, installée, je crois, par Robert Michaud et Christian Dornier, sous l'autorité de Pierre Dornier, qui était à l'époque le président de la CHAM. En 2016, le prince Victor Emmanuel, en présence de son neveu, le prince Serge de Yougoslavie, est venu présider le congrès des sociétés savantes de Savoie, organisé par la CHAM. Donc c'est à cette occasion qu'il a décerné la croix du mérite à la CHAM. Vous avez ici un résumé de son discours, et je le cite, donc la croix, il décerne à cette occasion la croix du mérite, je le cite, « Qui témoignera de ma reconnaissance ?» pour votre attachement au patrimoine et à l'histoire de la Savoie. Pour conclure, un mot sur les manteaux et les admissions. Comme vous pouvez le voir, les chevaliers... Le rouge est devenu bleu, vous m'excuserez, mais... Donc les chevaliers portent le même manteau d'église rouge depuis les débuts, donc rouge avec le cordon vert et blanc, et les croix de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. Quant aux dames, elles portent une cape noire avec la grande croix sur l'épaule. L'usage de ces manteaux est réservé aux cérémonies religieuses dans lesquelles l'ordre participe officiellement. Les personnes désireuses de rentrer dans l'ordre sont... L'admission dans l'ordre est tout à fait ouverte. Il s'agit simplement d'être baptisé et d'être catholique. Les personnes désireuses de rentrer dans l'ordre sont présentées par deux parrains Les dossiers de demande sont visés par le délégué, puis transmis à la chancellerie avant présentation au grand maître. Après acceptation, les diplômes sont remis, comme on l'a vu, lors du chapitre annuel. Et voici donc le grand blason des ordres dynastiques de la Maison de Savoie qu'on retrouve sur le document de la grande bibliothèque de la maison de la grande bibliothèque du diocèse de Chambéry. Eh bien, je vous remercie de votre attention.